Chapitre 4. Le chant de Cormalen. Tout autour des collines, les armées du Mordor se déchaînaient. Les capitaines de l'Ouest sombraient dans la marée montante. Le soleil brillait d'un éclat rouge, et sous les ailes des Nazgûl, les ombres de la mort assombrissaient la terre. Aragorn se tenait sous sa bannière, sévère et silencieux, comme perdu dans le souvenir de choses lointaines ou depuis longtemps passées. Mais ses yeux scintillaient comme des étoiles d'autant plus brillantes que la nuit se fait plus profonde. En haut de la colline se tenait Gandalf, blanc et froid, et nulle ombre ne tombait sur lui. L'assaut du Mordor déferlait comme une vague sur les collines assiégées. Des voix rugissaient comme les flots parmi le naufrage et le fracas des armes. Comme si une vision était soudain offerte à ses yeux, Gandalf remua, et il se retourna, regardant vers le nord dans les cieux pâles et clairs. Puis, il leva les mains et cria d'une voix forte qui s'éleva au-dessus du tumulte
« Les aigles arrivent !»
Et de nombreuses voix crièrent en réponse
« Les aigles arrivent! Les aigles arrivent !»
Les armées du Mordor levèrent la tête et se demandèrent ce que cet augure pouvait signifier. Vinrent là Gwaïr, le seigneur du vent, et son frère Landroval, plus grand de tous les aigles du Nord, plus formidable descendant de Thorondor l'Ancien, lui dont les airs étaient disséminés sur les pics inaccessibles des montagnes encerclantes quand la terre du milieu était jeune. Derrière eux, en de longues colonnes rapides, venaient tous leurs vassaux des montagnes septentrionales, portés par un vent de tourmente. Ils piquèrent droit sur les Nazgûl, plongeant soudain du haut des airs, et la ruée de leurs vastes ailes, passant au-dessus des collines, fut comme un grand coup de vent. Mais les Nazgûl virèrent et prirent la fuite, et ils disparurent parmi les ombres du Mordor, percevant le soudain et terrible appel de la tour sombre. Et à ce moment même, toutes les armées du Mordor hésitèrent. Le doute les saisit au cœur. Leur rire s'éteignit, leurs mains tremblèrent et leurs membres faiblirent. Le pouvoir qui les conduisait et les nourrissait de haine et de furie vacillait. Sa volonté les abandonnait. Et, regardant alors dans les yeux de l'ennemi, ils virent une lueur mortelle et furent saisis d'épouvante. Tous les capitaines de l'Ouest crièrent alors haut et fort, car leur cœur se gonfla d'un nouvel espoir au milieu des ténèbres. Du sein des collines assiégées, les chevaliers du Gondor, les cavaliers du Rohan, les Dunedain du Nord, en rang serré, s'élancèrent contre leurs ennemis flageolants, fendant la presse à grand renfort de lance. Mais Gandalf leva les bras et appela de nouveau d'une voix claire
« Arrêtez-vous, hommes de l'Ouest, arrêtez-vous et attendez, voici venue l'heure du destin. »
Et tandis même qu'ils parlaient, la terre remua sous leurs pieds. Puis d'un seul coup, loin au-dessus des tours de la Porte Noire, plus haut que les montagnes, une vaste obscurité monta en flèche et jaillit dans le ciel dans un grand flamboiement. La terre gronda et trembla. Les tours des dents oscillèrent, puis chancelèrent et tombèrent. Le haut rempart s'écroula. La Porte Noire fut renversée et détruite. Et de loin, d'abord faible puis s'enflant, enfin montant jusqu'aux nuages, vint un roulement sourd, un rugissement, un long tonnerre retentissant et dévastateur.
« Le royaume de Sauron n'est plus, » dit Gandalf. « Le porteur de l'anneau a accompli sa quête. »
Et tandis que les capitaines regardaient au sud vers le pays de Mordor, il leur sembla que, noir devant la sinistre nuée, s'élevait une immense forme d'ombre, impénétrable, couronnée d'éclairs emplissant tout le ciel. Elle se dressait impérieusement sur le monde, tendant vers eux une vaste et menaçante main, terrible mais impuissante. Car tandis qu'elle se penchait sur eux, un grand vent la saisit, et elle fut entièrement balayée et se dissipa. Et un silence tomba alors. Les capitaines courbèrent le chef. Et lorsqu'ils relevèrent les yeux, voyez, leurs ennemis prenaient la fuite, et la puissance du Mordor se dispersait comme poussière au vent. Comme les fourmis, À la mort de la chose boursouflée et prolifique qui habite leur fourmilière et les tient sous sa domination, erre stupidement et sans but pour trouver l'engourdissement et la mort, ainsi les créatures de Sauron, orques, trolls ou bêtes subjuguées par un sort, couraient çà et là comme des fous. Et d'aucuns se tuaient ou se jetaient dans des fosses ou encore fuyaient en gémissant pour se terrer dans des trous et des endroits sombres, sans lumière, loin de tout espoir. Mais les hommes du Rhône et du Harad, Orientais ou Sudrons, voyaient la ruine de leur guerre et la majesté et la gloire des capitaines de l'Ouest. Et ceux d'entre eux qui étaient plus lourdement et depuis plus longtemps asservis au mal, haïssant l'Ouest, quoique fiers et hardis, s'assemblèrent à leur tour en vue d'un ultime combat désespéré. Mais la plupart s'enfuirent vers l'Est comme ils purent, et certains jetèrent les armes et demandèrent grâce. Alors Gandalf, laissant la conduite de la bataille et la question du commandement entre les mains d'Aragorn et des autres seigneurs, se tint au sommet de la colline et appela. Sur quoi, le grand aigle Gwaïr, le seigneur du vent, descendit et se tint devant lui.
« Par deux fois tu m'as porté, Gwaïr, mon ami, » dit Gandalf. « La troisième fois sera la dernière, si tu es disposé. » Je ne te serai pas un fardeau beaucoup plus grand que lorsque tu m'as emporté du Zilag Zigil où mon ancienne vie s'est consumée. Je vous porterai où bon vous semblera, répondit Gwaïr, fussiez-vous fait de pierre. Alors viens, et que ton frère nous accompagne, et quelque autre de tes gens qui soit des plus rapides, car il nous faudra filer plus vite qu'aucun vent, et plus vite que les ailes des Nazgûl. Le vent du nord souffle, mais nous volerons plus vite que lui, dit Gwaïr. Et il souleva Gandalf et s'envola rapidement vers le sud, et avec lui venaient Landroval et Meneldor, jeunes et vifs. Et passant au-dessus de Ludun et du Gorgoroth, ils virent tout le pays en bouleversement au-dessous d'eux, et devant eux, les feux du mont Destin vomissant sa colère.
« Je suis content que tu sois ici avec moi, » dit Frodo. « Ici, à la fin de toutes choses, Sam. »«
Oui, je suis avec vous, maître, »
dit Sam, pressant délicatement la main blessée de Frodo contre son sein.
« Et vous êtes avec moi, et le voyage est fini. Mais après tout ce chemin, je refuse d'abandonner. Je suis pas comme ça, pour ainsi dire, si vous me comprenez. »«
Peut-être bien, Sam, » dit Frodo. Mais le monde, lui, est ainsi fait. Les espoirs meurent, une fin vient. Il n'y aura plus longtemps à attendre maintenant. Nous sommes perdus dans les ruines d'un monde qui s'écroule, et il n'y a pas d'issue.
Enfin, maître, on pourrait tout de même s'éloigner de cet endroit dangereux, cette faille du destin, s'il faut l'appeler comme ça, hein, pas vrai? Allons, monsieur Frodo, descendons au moins le chemin.
D'accord, Sam, si tu y vas, je vais te suivre, dit Frodo.
Et ils se levèrent et descendirent lentement la route sinueuse. Et comme ils se dirigeaient vers le pied tremblant de la montagne, un grand jet de fumée et de vapeur s'éjecta des Samathnaur. La paroi du cône se fendit et une grande vomissure de feu se déversa lentement, en une cascade ronflante, sur le versant oriental de la montagne. Frodo et Sam ne pouvaient plus continuer. Leurs forces mentales et physiques étaient à leur ultime déclin. Ils avaient atteint une petite colline de cendres au pied de la montagne, mais il n'y avait plus moyen de s'en échapper. C'était devenu une île bien éphémère au milieu du tourment de l'Orodruin. Tout autour, la terre était béante. Des fumées s'exhalaient de larges fissures et de profonds trous. Derrière eux, la montagne était dans les affres. Ses flancs laissaient apparaître de grandes crevasses. De lentes rivières de feu descendaient vers eux sur ses longues pentes. Bientôt, il serait englouti. Une pluie de cendres chaudes s'abattait. Ils se tinrent là, et Sam, tenant toujours la main de son maître, la caressait. Il soupira.
« Quelle histoire on a vécue, hein, monsieur Frodo ? » dit-il. « J'aimerais l'entendre raconter. Vous croyez qu'ils diront « Voici maintenant l'histoire de Frodo Neuf-Doigts et l'anneau du destin ?»
puis tout le monde fera silence, comme on faisait nous à Fondeval, quand il nous disait le conte de Belen une main et du grand joyau. Je voudrais être là pour l'entendre, et je me demande ce qui va arriver quand notre rôle sera terminé. »
Mais tandis qu'il parlait ainsi, afin d'éloigner la peur jusqu'à la toute fin, ses yeux continuaient de s'égarer au nord, dans l'œil du vent, où l'horizon était dégagé, tandis que la bise froide, se levant en bourrasque, repoussait les ténèbres et la dévastation des nuages. C'est ainsi que Gwaïr les vit de son regard perçant et sa vue clairvoyante. Porté par le vent sauvage et bravant le grave péril des cieux, il tournoya dans les airs. Deux petites formes sombres, isolées, solitaires, main dans la main sur une petite colline, tandis que le monde tremblait sous eux, agonisant, et que des rivières de feu les rejoignaient. Et comme il les apercevait et fondait sur eux, il les vit tomber, épuisés, suffoqués par la chaleur et la fumée, ou terrassés en fin de désespoir, fermant les yeux devant la mort. Ils gisaient côte à côte, et Gwaïr plongea, avec Landreval et Ménéldor le Vif. Et dans un rêve, sans savoir ce qui leur arrivait, les voyageurs furent soulevés de terre et emportés au loin, hors des ténèbres et du feu. Quand Sam se réveilla, il vit qu'il était étendu sur un lit moelleux, mais de vastes branches de hêtre se balançaient au-dessus de lui et le soleil brillait au travers des jeunes feuilles, vert et or. Tout l'air était empli d'un doux et riche parfum. Il se rappelait cette senteur, la fragrance de l'Ithilienne.
« Ça alors ?» pensa-t-il. « Combien de temps ai-je dormi ?»
Car l'odeur le ramenait au jour où il avait allumé son petit feu sous le talus ensoleillé, et tout ce qui était arrivé entre-temps avait momentanément glissé de sa mémoire. Il s'étira et prit une grande respiration.
« Non, mais quel rêve j'ai fait !»
marmonna-t-il.
« Je suis content de me réveiller !»
Il se redressa sur son séant, et c'est alors qu'il vit Frodo, couché à côté de lui, dans un sommeil paisible, une main passée derrière la tête, l'autre posée sur le couvre-lit. C'était sa main droite, et l'annulaire manquait. La mémoire entière lui revint d'un coup, et Sam s'écria
« Ce n'était pas un rêve, où sommes-nous alors ?»
Et une voix parla doucement derrière lui.
« Dans le pays d'Ithilienne, sous la bonne garde du roi, et il vous attend. »
Gandalf se tint alors devant lui, vêtu de blanc, sa barbe étincelant comme neige immaculée dans le chatoiement du soleil à travers les feuilles.
« Eh bien, maître Sam Saget, comment vous sentez-vous » dit-il.
Mais Sam retomba sur l'oreiller et le regarda bouche bée, et pendant un moment, entre confusion et joie indicible, il fut incapable de répondre. Enfin, il dit d'une voix entrecoupée,
« Gandalf, je vous croyais mort. Mais d'un autre côté, je me croyais mort aussi. Est-ce que toutes les choses tristes vont se révéler fausses? Qu'est-il arrivé au monde ?»«
Une grande ombre est partie, » dit Gandalf. Puis il rit. Et ce son était comme de la musique ou de l'eau dans un pays asséché.
Et l'écoutant, Sam se rendit compte qu'il n'avait pas entendu un rire, le son de l'absolue gaieté, depuis des jours et des jours sans nombre. Il retentit à ses oreilles comme l'écho de toutes les joies qu'il avait jamais connues, mais lui-même fondit en larmes. Puis, comme la douce averse passe sur un vent de printemps pour donner lieu à une brillante éclaircie, ses larmes cessèrent et son rire jaillit, et riant aux éclats, il sauta à bas du lit.
« Comment je me sens ? »
s'exclama-t-il.
« Eh bien, je ne sais pas comment dire. Je me sens... »
Il agita les bras.
« Je me sens comme le printemps après l'hiver, et le soleil sur les feuilles, et comme des trompettes et des harpes, et toutes les chansons que j'ai entendues de ma vie. »
Il s'arrêta et se tourna vers son maître.
« Mais comment va Monsieur Frodo ? » demanda-t-il. « C'est-il pas dommage pour sa pauvre main ? Mais j'espère qu'il va bien, sinon. » Il a passé des moments pénibles.
Oui, je vais bien, sinon,
dit Frodo, se dressant sur son séant et riant à son tour.
Je me suis rendormi à force de t'attendre, Sam, espèce de marmotte. Je me suis réveillé de bonne heure ce matin, mais maintenant, il doit être près de midi.
Midi ?
Fit Sam, essayant de calculer.
Midi de quel jour ?
Le 14e de la nouvelle année,
dit Gandalf.
Ou si vous préférez, le 8e jour d'avril dans le compute du comté. Mais désormais, au Gondor, le nouvel an commencera toujours le 25 de mars, jour où Sauron tomba et où vous fûtes tiré du feu et amené auprès du roi. Il vous a soigné, et maintenant il vous attend. Vous mangerez et boirez avec lui. Quand vous serez prêt, je vous conduirai à lui.
Le roi ?
Dit Sam.
Quel roi ? Et qui est-il ?
Le roi du Gondor est le seigneur des terres de l'Ouest,
dit Gandalf.
Et il a repris tout son ancien royaume. Il doit bientôt chevaucher à son couronnement, mais il vous attend.
Qu'est-ce qu'on va mettre ?
Demanda Sam. Car il ne voyait que les vieux vêtements en loques qu'ils avaient portés durant leur voyage, soigneusement pliés et posés sur le sol près de leur lit.
« Les vêtements qui vous ont emmenés jusqu'au Mordor, » dit Gandalf. « Même les guenilles d'orques que vous avez portées dans la terre sombre, Frodo, seront conservées. Nulle toile ou soierie, ni armure ni blason ne pourraient être plus honorables. Mais plus tard, peut-être, je vous trouverai d'autres vêtements. »
Il tendit alors les mains vers eux, et ils virent que l'une d'elles était étincelante de lumière.
« Qu'avez-vous là ? »
s'écria Frodo.
« Se pourrait-il ? » ?»«
Oui, j'ai apporté vos deux trésors. On les a trouvés sur la personne de Sam quand vous avez été secouru. Les présents de la dame Galadriel. Votre globe, Frodo, et votre boîte, Sam. Vous serez heureux de les retrouver. »